voix nue. Cette semaine, Zoé Sfez rencontre Dominique Blanc. Ce soir, de Phèdre à la douleur, la grande tragédienne.
Bonsoir Dominique Blanc.
Bonsoir.
C'est la quatrième soirée que nous passons en votre compagnie. Alors après avoir évoqué votre carrière au théâtre, votre carrière au cinéma, j'aimerais qu'on parle de cette décennie 2000 finalement, cette décennie où vous allez aussi bien au cinéma que sur scène incarner des rôles extrêmement forts, extrêmement lourds aussi, qui vont beaucoup marquer votre public, qui vont beaucoup aussi, je crois, vous marquer. Cette décennie, si on regarde, en fait, elle commence avec Stand By, ce fameux film de Roch Stefanik dont nous parlions hier. Vous expliquez qu'il a failli ne jamais être vu. Il faut le revoir, ce film, où vous interprétez donc Hélène, une femme abandonnée par son mari dans un aéroport et qui décide de ne plus en sortir, qui survit, notamment en se prostituant, grâce à l'amitié d'un barman qui est incarné par Roch Dizem.
Tout à fait.
Excellent.
Et mon mari est joué par Patrick Catalifo.
Et ce film, il vous a valu finalement le César de la meilleure actrice. Mm-hmm. Est-ce que ça a changé des choses ?
Je pense que ça a été très important pour le film, qui est sorti dans la foulée de nouveau. Donc il a eu une toute petite chance de plus d'être vu. Évidemment, moi, ça m'a comblée de joie, particulièrement pour cette expérience qui avait quand même été pleine de hauts et de bas. Donc j'étais vraiment très très heureuse. Par rapport à la profession, franchement, ça ne change rien. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, ça n'a rien changé. C'est-à-dire que j'ai continué de travailler comme avant. Mais il n'y a pas eu tout d'un coup quelque chose qui existe peut-être aux États-Unis, je ne me rends pas compte, mais avec les Oscars, peut-être qu'il y a un effet bankable. moi, non. Il y a toujours jamais eu d'effet bankable. Voilà, c'est pas les banquiers qui étaient là pour se mettre à me produire de nouveau. Non, ça a été comme avant, quoi. Enfin, j'ai continué à travailler.
Vous avez continué à travailler et très vite après ça, il y a la trilogie de Lucas Bellevaux.
Ah oui, alors ça, c'est un grand, grand moment de cinéma. C'est un scénario absolument fou et passionnant écrit par Lucas Bellevaux, Lucas tout seul, je crois, hein, je pense pas me tromper. Et ce sont trois films totalement indépendants, mais qui en même temps se relient totalement. Et ça s'appelle Un couple épatant, Cavale, Après la vie. Donc le premier, Un couple épatant, était une comédie, Cavale était un polar, Après la vie était un mélodrame. C'est au départ l'histoire de trois femmes finalement, trois femmes enseignantes, même si on a très peu de scènes ensemble. C'est Catherine Fraud, Ornella Muti et moi-même. On est toutes les trois enseignantes et en fait, on va partir, on va dire, hein, dans le cerveau de l'une et puis de l'autre et puis d'une troisième. Les films sont sortis les uns après les autres, ce qui n'était peut-être pas une bonne idée. La comédie a plus ou moins bien marché, le polar un petit peu moins bien et du coup, le mélodrame a été un peu puni. Moi, j'étais beaucoup dans le mélodrame, évidemment. C'est un personnage passionnant parce qu'elle est professeure d'anglais. On a l'impression d'une fille sans histoire qui vit avec un policier. Bon, très bien. Et puis, on découvre qu'en fait, c'est une femme qui est morphinomane, dont le mari, officier de police, lui fournit toutes ses substances. Donc, c'est assez incroyable. Et va s'entremêler tous ces fils scénaristiques d'une puissance incroyable. Moi, j'étais absolument sûre que les Américains allaient racheter le scénario et faire un remake de ces trois films parce que l'idée est tellement géniale. Et ça, c'est vraiment Lucas. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont une seule et même scène et filmées de plusieurs points de vue différents. On est en 2001-2002, hein, donc ça se faisait évidemment pas du tout à ce moment-là. Le chef opérateur va éclairer les trois films, mais les éclairer différemment tous les trois. L'ingénieur du son sera le même, mais ça sera un peu comme trois univers extrêmement différents. C'est 6 mois de tournage de nouveau, c'est dans la région de Grenoble essentiellement, et je pense qu'il doit y avoir un peu d'intérieur à Paris, quelque chose comme ça. Moi, j'ai adoré ce tournage-là, c'était dur, hein, parce que jouer un personnage comme ça, c'est...
Il y a beaucoup de scènes de manque.
Voilà.
On vous filme de très très près.
Voilà, moi je m'étais pas mal renseignée à cette époque-là avec un médecin dont j'ai retrouvé le nom à l'occasion d'une soirée de lecture, c'était assez étonnant. J'habitais dans le quartier Barbès à ce moment-là et j'ai beaucoup fait parler les gens et j'étais arrivée à trouver les coordonnées d'un généraliste qui ne soignait que des toxicomanes. Il avait son cabinet ouvert pratiquement 24 heures sur 24 et il a accepté de me recevoir. Et moi, sans que j'aie à lui parler tellement longtemps, je suis aussi beaucoup allée dans la salle d'attente, simplement pour regarder. C'est tout à fait... c'est complètement voyeur, mais j'étais complètement voyeuse parce que j'avais besoin de savoir comment est-ce que c'était vécu charnellement, je dirais, et puis comment le raconter au cinéma, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas filmer, qu'on peut pas raconter non plus. Je suis allée voir un psychiatre aussi qui parlait très très bien de cette toxicomanie. Donc le tournage a été dur, mais passionnant. Je me suis retrouvée à jouer avec Luca Bellevaux, ce qui n'était pas du tout prévu. Mais je crois qu'au dernier moment, un acteur lui a fait défaut. Donc, il s'est trouvé à jouer le rôle principal du polar, c'est-à-dire de Caval, dans lequel il est très bien, d'ailleurs.
Bruno Leroux.
Voilà. Et c'est très étonnant de jouer avec son metteur en scène. Alors, au début, il m'a donné des notes. Et puis, très vite, je lui ai fait comprendre que, bon... C'était peut-être pas la peine. On allait plutôt s'amuser à jouer ensemble. On serait plutôt proche de la vérité que si je jouais avec quelqu'un qui en même temps me critiquait. C'était délicat. Voilà, donc pour moi, c'est un très beau souvenir. Je pense que c'est une trilogie qui mérite d'être vue et revue. Et c'est, enfin, moi, j'aimerais beaucoup la revoir maintenant. Ça va, vous rendez compte, ça fera presque bientôt 20 ans. Pour voir, mais je suis sûre que ça a très très bien vieilli. C'était un remarquable travail et moi j'aime beaucoup le cinéma de Luca Bellevaux. C'est un cinéma fort, engagé, politiquement engagé, comme il l'est lui d'ailleurs. Et depuis, il a fait des films magnifiques. Et c'est un cinéaste que j'aime beaucoup.
Notamment chez nous, juste avant l'élection présidentielle de 2017.
Oui.
Alors là, on est en 2002, c'est ça. Et alors en 2003, il y a Phèdre.
Voilà.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on est passé de l'un à l'autre? Et Phèdre, je crois qu'on peut le dire ici, moi j'avais 16 ans quand je vous ai vu dans Phèdre.
Oui.
C'est un morceau qui a marqué le rôle, vous, évidemment le public. C'est Patrice Chéreau, c'est l'Odéon. C'est un moment en particulier en plus dans l'histoire de l'Odéon. Mm-hmm. Comment est-ce que cette idée, ce projet est arrivé?
Alors, je crois de la façon la plus simple possible... Je devais jouer Nina dans La Mouette à Rennes. Je n'ai pas pu la jouer parce que je me suis blessée la veille de la première. Assez gravement, j'ai dû abandonner le rôle qui a été repris très vite par Irène Jacob. Et le soir de l'accident où je m'étais blessée, j'étais à Rennes, mais est entré dans ma loge Philippe Calvario et Patrice Chéreau, Patrice que je n'avais pas revu depuis un certain temps. J'ai trouvé sa présence étonnante. Il n'a pas dit grand-chose, si ce n'est qu'il avait l'air tout à fait désolé. Et puis, il est reparti. Et quelques temps plus tard, il m'a téléphoné en m'expliquant qu'il aimerait venir chez moi. Bon, moi, je me déplaçais difficilement à ce moment-là, j'avais des béquilles. Il est venu, il s'est assis sur le canapé et il n'a pas pris... 56 détours. Il m'a dit je suis là pour te proposer une chose un petit peu particulière. Et il m'a dit qu'il voulait m'offrir le rôle de Phèdre. Et pour tout vous dire, moi j'ai éclaté en sanglots immédiatement. J'étais à mille lieues de me douter qu'il allait faire une chose pareille. C'était totalement inouï, impensable, je ne sais pas comment dire. Un peu comme une espèce de conte de fées. Et ça a été un moment magnifique. On s'est levés tous les deux, on s'est pris dans les bras très fort. Puis après, on ne savait plus tellement quoi se dire. On était un peu intimidés. Et ça s'est suivi tout de suite, parce qu'avec Patrice, il ne fallait pas perdre de temps, d'une lecture, quelques temps après, à l'Odéon, où tous les comédiens étaient réunis. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'en fait, il se crée dans Paris une nouvelle salle de théâtre. Et ça, je pense que Chéreau le savait depuis très longtemps. C'était les ateliers Berthier, donc, qui étaient des ateliers d'entrepôt de décors d'opéra, que l'opéra de Paris cédait, enfin d'après ce que j'ai compris, et donc se créait un nouveau théâtre dans le 17e, Porte de Clichy, et ce théâtre, pour naître, naissait avec Phèdre. Donc ça faisait vraiment beaucoup de circonstances, si vous voulez, historiques, qui rendaient l'événement tout à fait... présent, important et incontournable. Mais tout ça ne dit pas de la difficulté de, de la chose. Donc les répétitions ont commencé, on a fait des lectures à la table, beaucoup. où on se disait le texte les uns les autres sans se soucier particulièrement de la musique de l'alexandrin. Chérault avait très très peur de tout ça, surtout de l'alexandrin. Et il pensait que à deux, n'ayant aucune expérience, il disait régulièrement que c'était notre atout à tous les deux, parce qu'on n'avait aucune expérience dans la tragédie classique. Donc on se lisait, si vous voulez, les rôles comme ça, en essayant de s'apprivoiser, parce que moi, enfin, il y avait très peu de gens que je... assez peu de gens que je connaissais, d'ailleurs. On était tous très impressionnés, évidemment, et puis on s'est retrouvés en salle de répétition, et là, bon, bah, on s'est jetés à l'eau, hein. Je me rappelle qu'avant de faire la première entrée, Chérault est venu vers moi et il a dû m'expliquer je ne sais quoi qui avait trait au décor de façon à ce que j'oublie un peu mon trac. Et puis on s'est jeté comme on le faisait avec lui en entier, tout entier. Voilà, ça a été un travail absolument passionnant. Il s'est révélé d'une extrême douceur. S'il avait des interrogations ou s'il avait des doutes, en tout cas moi j'en étais toujours protégée, je l'ignorais tout à fait. Et on a avancé petit à petit dans cette espèce de... Moi je vois ça comme le labyrinthe du Minotaure, si vous voulez. Parce que la tragédie de Racine du XVIIe siècle était très loin de nous. Avec toutes ces circonstances, on n'avait bien évidemment pas l'autorisation de se planter, et en même temps, on avait la prétention de vouloir un peu tout réinventer, donc il fallait vraiment être à la hauteur. Ça mettait sur nous une très grande pression, mais en même temps, on travaillait bien, j'avais le sentiment qu'on travaillait vraiment de façon très profonde, comme Patrice aimait le faire, quoi.
Comment il travaillait justement, Patrice Chérault ? Vous parlez de répétition, vous dites qu'on y a été. Ça veut dire qu'il était dans la salle, qu'il était à côté de vous sur scène, qu'il...
Non, au début, il était... Enfin, ça, plusieurs comédiens qui ont travaillé avec lui l'ont dit, mais au début, il est toujours près de vous. Il n'est jamais très loin et il a sa brochure sur le cœur, toujours. Au cinéma comme au théâtre. Brochure sur le cœur. Mais après, évidemment, petit à petit, il s'éloigne et puis en salle de répétition, il ira... Peut-être pas s'asseoir, mais il va s'éloigner et quitter l'espace scénique. Et quand on va se retrouver dans le lieu véritable de Berthier, là, il sera carrément très loin sur les gradins. Mais auparavant, si vous voulez, il aura établi cette intimité qu'il y avait sur ceux qui m'aiment. Cette espèce d'intimité absolument incroyable de lui à vous. Vous, en tant qu'être humain unique, et pour chacun pareil, le même dispositif. Et aussi cette même exigence qu'il avait toujours, cette exigence d'aller au plus loin de toutes ses forces, de tout son être, j'oserais dire de toute son âme, je crois que c'était vraiment ça. C'est l'histoire d'une passion, donc ça peut pas se faire différemment que passionnément. Ce qui était formidable, c'est que s'il y a eu des soucis ou des tensions, ou vraiment je n'en ai eu absolument pas connaissance, Patrice aimait m'appeler comme étant son premier soliste ou son premier violon, je me rappelle plus. Mais il savait qu'il pouvait avoir l'air d'un chef d'orchestre. Et en l'occurrence, c'était un bel orchestre. Mais il ne voulait pas s'arrêter à ça non plus. Mais il était très présent et très rassurant. Et le soir de la première, qui était un lundi, la comédienne qui jouait Enon, donc la nourrice, la comédienne était Michel Marquet, a eu un souci de santé et donc a quitté le spectacle aux alentours de Noël. Et la première représentation était début janvier. Orphèdre a la plupart de ses scènes avec Enon. Donc pour moi, ça a été un stress terrible. Mais ça, de ça aussi, j'ai été protégée. Mais est venue la remplacer une comédienne magnifique qui est Christiane Coendi. Tout aussi magnifique. Et donc on a repris tout ça pareil dans une très grande urgence, ça nous a presque dopé d'ailleurs. Le soir de la première de Nanterre, je crois qu'il y avait à peu près 5 ministres de la culture dans la salle. J'avais jamais vu ça, c'était étonnant. C'est dire la puissance de l'événement. Mais plus sérieusement, le lieu, on avait visité le lieu avant Noël, et Berthier était un lieu mais gigantesque, vraiment gigantesque. Et il fallait raconter cette tragédie et les alexandrins avec aussi un certain souffle, une certaine puissance. Et puis la proximité du spectateur, c'est-à-dire que le premier spectateur était aussi près que vous l'êtes de moi actuellement. Je voyais absolument les chaussures, la marque des chaussures, tout. Et en même temps, il fallait convaincre aussi celui qui était au dernier rang des gradins. Il y avait deux gradins, donc en bifrontal. Et ça, c'était très, très angoissant de savoir qu'il fallait ajuster le texte de très près, mais aussi de très loin. Quand quelques spectateurs se sont rendus sur les gradins, des gens comme Richard Peduzzi ou des costumiers comme Moïde Lebiquel, qui est une grande costumière de la Chaubune qui est disparue il n'y a pas longtemps, on s'est dit tout d'un coup, ah, mais il va y avoir du monde sur les gradins, on avait fini par l'oublier. Et on a été pris d'un trac phénoménal parce qu'on s'est dit, mais on a dit à Patrice, mais tu te rends pas compte, on les voit les gens, on voit leur visage, on verra qui est assis là, on verra s'il y a machin truc ou du schmolz, ça va être affreux, on pourra jamais se concentrer, enfin, on était totalement terrorisés. Et Chéreau nous a dit, non, mais il n'y a aucun problème, ce qu'il faut c'est que ne regardez pas les visages, regardez les plexus, regardez la poitrine, visez la poitrine. Voilà, c'est ce que j'ai fait, je peux vous dire. Et donc le premier soir a eu lieu, c'était tout à fait incroyable, la veille, la répétition générale s'était plutôt bien passée. Mais la première a été vraiment un beau succès, et ça a été comme ça toutes les représentations. Le souvenir très fort dont je me rappelle, c'est que c'était un public populaire. C'est-à-dire que il y avait des gamins, ça commençait à 10-11 ans, on va dire, jusqu'à des anciens, très anciens. Et c'était toute classe sociale confondue. Et ça, c'était extraordinaire. À vivre, c'était impressionnant. Parce que, je sais pas, moi, je n'ai pas connu l'époque de Jean Villard, du TNP, de tout ça. Mais c'était un écho direct, si vous voulez, de ce théâtre-là. On avait l'impression que, ça y est, c'était reparti. Le théâtre était de nouveau vivant, populaire et successful, comme disent les Anglais. Ça a été un immense, immense bonheur, vraiment. Il fallait, alors là, moi, je quittais ma loge très vite. Je sortais en même temps que le public, imaginez-vous. Je mettais un bonnet de laine enfoncé très profond sur les oreilles et je traversais le public comme une mer agitée et j'écoutais tout ce que les gens disaient. Et ça me donnait du courage pour le lendemain, parce que le lendemain, il fallait retourner et il ne fallait pas que le lendemain soit moins bien. Bah, parce qu'avec Chéreau, évidemment, le lendemain doit être encore mieux que la veille. C'était ça son exigence et ça l'a toujours été, de façon à ce que chaque représentation soit de plus en plus belle. Et si vous reprenez un rôle, si vous le reprenez uniquement s'il est encore mieux qu'à la création, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc la pression est toujours là, hein. C'est ça son sens de l'excellence.
Et vous parliez des répétitions. J'ai lu, vous avez dit que la scène finale, la scène du suicide de fête, vous l'avez assez peu répétée finalement.
Oui, ça c'est une scène dont j'étais triste, parce que quand on arrivait à cette scène-là, toute la distribution était très fatiguée, c'est vrai qu'on était tous épuisés. On avait plein de problèmes techniques à régler, surtout Patrice avec le sang sur le corps d'Hippolyte qui était joué par Eric Ruff. L'arrivée d'Hippolyte, l'arrivée du cadavre par l'ascenseur, l'arrivée de ce guerrier avec le récit de Théramène et tout ça, ça avait été assez compliqué à régler. Donc en fait, le reste avait été réglé un peu vite.
Le reste, donc votre mort.
Entre autres, ma mort. Et c'est vrai que pour moi, c'était pas rassurant, parce que j'ai toujours eu le sentiment que la pièce n'avait pas été... Enfin, moi en tout cas, hein, Mais bon, je suis un petit peu perfectionniste aussi, mais que ça n'avait pas été joué jusqu'au bout. C'est-à-dire, je disais à Patrice, mais sous quelle forme se suscite-t-elle ? Certes, le poison, mais quel poison ? Enfin, j'essayais de le faire parler pour pouvoir un peu alimenter mon rêve à moi. Lui, son problème était ailleurs. Je crois que ce qu'il souhaitait, c'est que ça se termine entre hommes, d'une certaine manière, entre Pascal Grégory et le corps d'Éric Ruff, et puis tous ceux qui étaient autour. Et donc, la mort de Phèdre était secondaire. D'ailleurs, il m'a dit, tu ne mourras pas au milieu, tu mourras sur le côté, on finira par t'oublier. Ce qui était quand même assez terrible. Donc, j'ai enquêté un peu toute seule sur le fameux poison. Bon, j'ai compris aussi assez vite que Patrice Chéreau n'avait pas tellement envie que je fasse tout ça dans des convulsions un peu trop mélodramatiques. Il m'en savait capable. Donc j'ai joué mon suicide, si vous voulez, et ma mort de manière assez sobre, finalement. Je regrette un peu. Non, mais bon, voilà. Et alors chaque soir, il se passait une chose magnifique, c'est que dans l'obscurité du noir, une fois que le noir était tombé, Michel Duchaussois, dans le noir, tous les soirs, venait m'aider à me relever. Et c'était un moment merveilleux pour moi. J'adorais et j'aime toujours Michel Duchossois, je l'avais connu dans L'Allée du Roi, dans Milou en mai, je le retrouvais là. Le récit de Théramène était une pure splendeur, j'allais l'écouter en coulisses tous les soirs. Et il avait ce geste extrêmement délicat, juste avant les saluts, de me relever dans la pénombre. C'était très beau. S'en suivaient des saluts qui étaient des saluts formidables. Très régulièrement, Patrice venait se joindre au salut, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Mais je crois qu'à cette époque-là, il en avait vraiment besoin. Vraiment.
Vous parlez de Phèdre. Vous l'avez dit, elle se suicide. Vous avez dû en parler mille fois de ce personnage, de ce qu'il a représenté, d'à quel point il est intéressant, cette femme qui est amoureuse du fils de son mari et qui en meurt finalement. Aujourd'hui, comment est-ce que vous regardez ce que ce rôle dit et ce qu'il vous a apporté peut-être ?
Ben, il m'a apporté un des plus beaux rôles de ma carrière, je dois dire. J'aime pas utiliser le mot carrière, mais c'est vraiment ça. Sur toute la traversée, on va dire, depuis 1981, c'est certainement un des plus beaux rôles. Peut-être le plus beau, ça j'en sais rien, mais ça a été une expérience unique de défendre la tragédie classique de façon aussi moderne, de façon aussi contemporaine, avec quelqu'un d'aussi puissant et charismatique que l'était Géraud. Ça vous apprend tant et tant, et en même temps, s'il faut enchaîner avec autre chose, tout est à réapprendre. Mais c'est vrai que j'ai eu vraiment, et puis ça se confirme, le sentiment d'avoir participé à quelque chose d'un peu exceptionnel, parce qu'il y a des gens comme vous, alors bon, soit ils étaient adolescents, soit parfois ils ont 12-13 ans, et ils me disent « Oh, mais j'ai vu Phèdre quand j'étais jeune !» C'est bien, parce que ça me rajeunit en même temps. Mais non, je rigole. Mais ça a été, oui, un grand rendez-vous, c'est certain.
Et alors après, justement, vous sortez de Phèdre, qu'est-ce qui se passe dans votre tête et dans vos envies ?
Alors en fait, après la morphinomanie et le drame tragique, antique, eh bien, il s'est passé un désert, c'est-à-dire qu'il n'y a eu absolument aucune proposition, ni au cinéma, ni au théâtre. Je crois que c'est des choses qui arrivent dans la vie des comédiens, et des comédiennes certainement encore plus. Donc ça a été une espèce d'arrêt sur image, j'ai continué à travailler un petit peu, et puis je suis tombée malade, donc je me suis soignée, et le temps a passé.
Une fois que vous vous êtes soignée, vous aviez envie de quoi ?
Oh là là, c'est très difficile. Je crois que j'avais plus d'envie, j'avais le sentiment d'être totalement vidée. Peut-être même que je pensais ne plus être capable de jouer la comédie, j'étais vraiment au bout du bout. Donc j'ai déjeuné avec Géraud, que je n'avais pas vu depuis longtemps, et je lui ai demandé qu'il me raconte un petit peu ce qu'il pensait du parcours que j'avais eu depuis le début. J'étais très inquiète, j'avais l'impression que... Enfin voilà, j'étais inquiète. On a déjeuné tous les deux comme ça, et puis au fur et à mesure, il parlait, et en même temps, je pense qu'il réfléchissait. Et à la fin du repas, il m'a dit, écoute, pourquoi est-ce qu'on ferait pas une lecture, toi et moi ? On pourrait faire une lecture, et puis on choisirait un texte qu'on aime beaucoup. Et alors là, je te demande, il faudrait un regard, et j'aimerais que ce regard, ce soit un chorégraphe qui s'appelle Thierry Niang, avec lequel j'ai travaillé sur Cosy Fan Tutte et à Aix-en-Provence, et parce qu'on a besoin d'un œil extérieur. Alors je lui dis oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc on va pour se rencontrer. Entre-temps, Patrice lit des choses, moi aussi, mais aucun coup de foudre ne s'enclenche, jusqu'à ce que Thierry Niang nous apporte la douleur. Thierry, étant, comme son nom l'indique, d'origine vietnamienne, est un très grand lecteur de Marguerite Duras. Ce que Géraud n'était pas, ce que je n'étais pas non plus, je dois dire. Alors là, en une après-midi, j'ai lu le texte, c'était fait, c'était un texte magnifique, vraiment magnifique. Voilà, donc la douleur, Patrice m'a dit, écoute, je fais le montage et je te l'envoie. Et je dois dire que quand vous regardez ou quand vous lisez le texte de la douleur et de son montage, c'est extraordinaire, ça tient du génie. Donc voilà, ça se déroule comme une tragédie. Ça pourrait être une tragédie classique, ça ne l'est pas, c'est une tragédie tout court. Mais voilà, c'est une femme en avril 45 qui attend son mari, qui est probablement déportée, probablement dans un camp de concentration, peut-être mort déjà, on ne sait pas. Voilà, donc on commence cette lecture pour la première fois à Genève, tous les trois. Ça se passe extrêmement bien. Moi, je suis totalement morte de peur, mais ça se passe très bien. On va renouveler la chose. Et puis, on se trouve un jour à l'approche de Noël à Reims, dans mon souvenir. Et ce jour-là, Chérault arrive de Milan, où il répète à la Scala de Milan. Il est très fatigué, il est très mauvaise humeur, ce qui lui arrivait quand même très peu. Et là, je me dis que c'est probablement un peu trop pour lui, tout ça. Je réfléchis et au sortir de la lecture, je lui dis « Écoute, je vais te poser une question et prends le temps de réfléchir. Je pense que cette douleur, c'est une femme qui attend toute seule chez elle. Est-ce que tu accepterais de mettre ça en scène ? Surtout, prends le temps de réfléchir, ne me réponds pas maintenant. » Et quelques jours après, j'ai reçu un mail où il me disait « Bien sûr, je suis d'accord, avec Thierry Niang, bien évidemment. » Et le spectacle « La douleur » est né comme ça.
Un spectacle où vous êtes seule en scène. Voilà. C'était la première fois, je crois.
Première fois, tout à fait. Ça n'était jamais arrivé auparavant. J'y avais jamais pensé. D'ailleurs, je n'en avais jamais rêvé non plus. Quand c'est arrivé, par contre, alors là, je me suis dit, oula, ça c'est quelque chose où je vais apprendre beaucoup parce que, bah, en fait, le stress est énorme, évidemment, on est tout seul. Donc, on y pense le matin, l'après-midi, le midi, le soir, la nuit, enfin tout le temps. On vit avec ce texte. Et ça a été un très grand bonheur. Les visiteurs du soir, Olivier Glusman m'a demandé si éventuellement j'accepterais de tourner la chose. Donc j'ai fait ça pendant 3 années, pas tous les soirs, je le précise, mais j'ai joué beaucoup en France, beaucoup, beaucoup, dans des théâtres tout petits ou absolument trop grands. Et puis aussi au Brésil, parce que c'était l'année de la France au Brésil. Et puis j'ai eu la chance de le jouer au Japon, je l'ai joué au Vietnam, enfin... C'était extraordinaire.
Vous avez travaillé, je crois, de manière complètement différente, du coup, avec Patrice Chérault sur cette mise en scène.
Il a tout d'abord commencé par me demander d'être une femme qui attend. On s'est retrouvés à la manufacture des œillets à Ivry, et là, on n'était que tous les deux. Il m'a dit « Je voudrais que tu imagines pendant des heures que tu attends depuis des heures. » Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a pris en photo avec son téléphone. Ah, alors là, j'étais sidérée. Je me suis dit « Alors ça, nouvelle méthode !» Et je pense que c'était une chose dont il avait besoin pour rêver, lui aussi, pour réfléchir, et puis aussi pour filmer, hein, parce que Chérault a toujours eu très envie de réaliser pour le cinéma. Je crois qu'il était très heureux au théâtre et à l'opéra, mais au cinéma, c'était une autre aventure pour lui. Et il avait l'impression qu'il avait encore tout à prouver, même après tout ce qu'il avait fait.
Et vous, elle vous a fait du bien, cette douleur ?
Ah bah oui, elle m'a réconciliée avec moi-même. Je me suis rendu compte que j'étais capable de retourner sur un plateau. Ça m'a beaucoup rassurée. Et puis que j'étais capable d'être seule sur scène, je pouvais l'assumer aussi. Et puis défendre ce texte absolument magnifique. Et par la même occasion, travailler avec Patrice pour la 6e fois. Je ne savais pas que ça serait la dernière fois, mais c'était quelque chose de... très essentiel pour moi.
Merci beaucoup Dominique Blanc. On se retrouve demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Zoé Sfez avec Dominique Blanc. À voix nue, réalisation Anne-Laure Chanel, prise de son Gilles Gallinaro, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.